Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu sur le 102.2. Il est 21h passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle. Et ce soir c'est l'édition numéro 600 de La Lumière du Frigo. 600e, bonsoir. Tout ce qui est plus normal, la preuve, ça commence bien. On va écouter une vieillerie, quelque chose d'encore plus vieux que La Lumière du Frigo, puisque ça date de 1991. Il s'agit du premier ou deuxième album de Samayam, un groupe de punk rock, hardcore, mélodique du début des années 90. Et c'était drôlement bien en concert, c'était classe aussi, et ben, ça se réécoute bien. Et voilà, faut peut-être avoir écouté ça quand on avait 20 ans pour apprécier. On écoute un extrait de cet album qui s'appelle Soar et le morceau s'appelle Clean. toujours à l'écoute de Radio Canu, la lumière du frigo qui démarre tranquillement, qui galère un peu. Et pourtant, c'est l'émission numéro 600. Alors, on a démarré directement avec un artiste turc. C'est extrait d'une compile, une anthologie de musique turque expérimentale. Et il s'agit de Seher Sinan Kisteli. On écoute ça encore tranquillement, ça continue. Non, c'était pas fini. Et là-dessus, Julia Kent, le très beau violoncelle de Julia Kent, extrait d'un album qui s'appelle Asperities et qui est sorti en 2015 sur son propre label. Elle fait tout, du violoncelle, que du violoncelle, mais des empilements, des boucles, c'est très cinématographique. Et on va dire que ça ira bien avec avec un son d'Arte Radio. Ça s'appelle Les Braqueurs, extrait d'une série, c'est formidable. Et là, c'est l'histoire de François. La lumière du frigo, édition 600.
La fraîche avec le calibre, quoi. Alors, évidemment, pas chez le particulier, les agents de change, les transports de fonds et aussi les centrales, les banques nationales ou les centres de triage. Et après, il y a des réseaux de trafiquants qui, pour moi, sont des commerçants qui ne sont pas du grand banditisme. Donc, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les gens qui trafiquent les êtres humains, voilà, ça sont pour moi des commerçants. Déguisés en voyous et qui sont parfois plus violents et souvent plus violents que le grand mondisme en lui-même. Mais forcément tout est lié puisque le grand mondisme a besoin d'armes, a besoin d'explosifs, de certaines choses clandestines qui forcément le mêlent à certaines choses. Et donc, il s'est bien joué mais tu manques d'expérience. C'est dommage qu'il nous a pas connus. Parce que nous, des mecs comme toi, on aurait pu faire affaire. Évidemment, je n'étais pas dupe, je savais que je connaissais toutes les trajet, l'organisation des fourgons. En plus, j'étais spécialisé en explosifs, puisque quand j'étais garde-corps, j'avais une formation pour déminer. Donc, je savais bien utiliser les explosifs aussi. Comme j'avais balancé personne, puisque j'avais vendu des titres, et je n'ai jamais dénoncé les gens qui m'avaient vendu ces titres, qui étaient des gens du milieu, ça s'est dit très rapidement. Il faut savoir, dans le grand banditisme, en fait, la seule garantie que vous avez, c'est l'honneur. Et l'honneur permet, c'est votre manière d'avancer, c'est votre CV. Si vous avez fait une enroule à quelqu'un, si vous avez embrouillé quelqu'un, ça va se savoir. Donc c'est une petite famille, c'est des gens... et on y rentre difficilement. Et j'avais le sentiment d'avoir été accueilli par cette élite. Et en plus, j'ai une certaine... je suis respecté dans la prison puisque je fréquente ces gens-là. Et on sympathise. Et puis la première chose qu'ils me demandent, c'est si je fume. Je dis non. Il dit c'est bien, c'est un peu le mec 45 malais qui s'adresse au gamin de 20 ans quoi. Chose du combien, du 44, demain on va trouver des baskets, tu vas venir courir avec nous. Et donc je cours tous les jours une heure à la promenade. Et les mecs ils me testent en fait, je le sais pas mais ils me testent. Donc ils me partagent des secrets, puis il y en a un autre qui vient me parler pour savoir si je répète. Des tas de choses qui font qu'à un moment donné c'est des petits trucs pour voir si on est des gens fiables. C'est une manière de tester. Et j'ai été pendant les années de prison presque coaché. Tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois jamais être dans les lieux publics avec les gens avec qui tu travailles, vous ne devez jamais être ensemble. Quand vous tapez, vous devez vous retrouver ensemble et ne jamais vous séparer. J'apprends aussi, de par mon dossier pénal, quand vous êtes arrêté, vous avez un dossier pénal. Donc la police fait une enquête et vous avez des auditions, donc vous avez la possibilité de lire après votre dossier. et vous voyez comment elle a opéré, comment elle a pu, je sais pas, tracer une enquête téléphonique par exemple, comment elle a pu réussir à vous filer. On vous dit tiens là j'ai fait une erreur. Donc c'est des petites choses qui vous apprenez sur le tas. Et puis vous lisez énormément le bouquin de Messry, le bouquin de François Metz, le bouquin de tous les braqueurs un peu connus, et qui vous racontent leurs erreurs, et qui enjolivent les choses, mais qui. Et donc vous lisez ça un peu comme une espèce d'aventure, c'est des contes modernes, hein. Vous dites waouh, quelle vie. Et on a envie de leur ressembler, enfin moi en tout cas j'ai envie de jouer ce rôle-là. J'ai rencontré un forum, forum du crime, où vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous parfaire. Alors j'ai pas fait 4 ans plein, j'ai fait plus de 2 ans. Donc je sors de prison pour bonne conduite. Et quand je sors de prison, je rencontre directement donc, des gens à ma disposition qui me manquent. Donc grâce aux gens que j'ai rencontrés en prison, ils me font entrer dans leur réseau et j'ai tout de suite ce qu'on appelle, je peux former mon équipe. Donc j'ai un spécialiste en vol de voiture, j'ai un spécialiste qui sait me fournir des armes. Je peux trouver par exemple des explosifs, je peux trouver tout ce qu'il me faut pour monter une équipe. Donc je bénéficiais de deux gens qualifiés, qui étaient aguerris. Le facteur humain, c'est des gens qui savaient faire de la prison sans balancer, qui l'avaient prouvé, donc je me sentais bien entouré. Voilà. Je pense. C'est une histoire de surfeurs qui braquaient des banques pour pouvoir assouvir leur passion du surf. Un film qui m'a marqué et je me disais, mais tiens, ces gars-là, ils ont tout compris. Quoi. Alors, ça se termine mal, mais on se dit qu'on est plus malin que les protagonistes du film et que bah, forcément, j'allais faire mieux. Et que le meilleur moyen, c'était de rentrer, de faire le cheval de Troie, c'est rentrer là où il y a de l'argent, étudier le système et puis faire le gros coup et je faisais un one-shot.
Les braqueurs. François, épisode 2.
J'ai commencé en 93 jusqu'en 2000, dans les années 2000, une bonne dizaine d'années. Et on braque des fourgons en raison de, je crois que c'est recensé, c'est une attaque par semaine en Belgique et dans le nord de la France. On était vraiment des spécialistes. On était trois équipes. Vraiment des gens aguerris, on était trois, et en France aussi, 3-4 équipes maximum. Et on peut s'échanger des équipes aussi, parce qu'on se connaît tous. Donc ça veut dire que moi, si je suis artificier, je peux aller aider un mec à Marseille, ou un mec de Marseille peut venir. On appelle ça des équipes à tiroir. Je rêvais le braquage toute la nuit. Donc je le visualisais, et c'est un parallèle même d'ailleurs avec le cinéma. En tant que réalisateur, je me rends compte que quand on est en tournage, on visualise la scène qu'on va filmer. On fait l'opérage, on fait un casting, on fait de la préparation et on passe à l'action. Donc c'est exactement pareil. Je pouvais aussi demander à mon équipe de préparer les choses, mais physiquement, c'est-à-dire qu'on jouait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se positionnait, on disait, bon voilà, toi tu vas aller là-bas, tu vas t'expliquer, pendant ce temps-là, moi je m'occupe des convoyeurs, toi tu surveilles la route de l'autre côté. Chaque détail compte. Et chacun a un rôle bien défini, comme sur un tournage de film. Si chacun ne remplit pas son rôle, on n'arrive pas à réaliser une prise. L'idéal, c'est un fourgon qui ramasse dans les grandes surfaces parce que c'est de l'argent usagé. Il faut savoir qu'il y a des, à l'époque en tout cas, peut-être encore aujourd'hui, pour une raison économique, ils ne ramassaient pas tous les jours. Donc c'est parfois 2 fois par semaine. Et il était plus intéressant d'aller braquer le vendredi le fourgon que le lundi, évidemment. Ou un fourgon qui sort de la Banque de France. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez avoir de l'argent numéroté qui peut être neuf, trié, empaqueté avec une suite de numéros qui va être contraignante après à écouler. Donc, il vaut mieux de l'argent usagé. Une fois que vous avez ciblé le fourgon qui vous intéresse, l'idéal, c'est d'être sur des grands axes. Donc pas spécialement sorti d'une ville, mais pas en ville, quoi. C'est plus compliqué en ville, évidemment. Quoique c'est possible, mais bon. Donc beaucoup de préparation sur le endroit où on va choisir l'attaque, repérer les lieux par lesquels on va s'échapper, et étudier les moyens que les forces de l'ordre vont pouvoir mettre en œuvre pour essayer de vous arrêter. Donc chronométrer le temps qu'ils vont pouvoir mettre à intervenir, imaginer quelle route ils vont emprunter, etc., etc., etc. C'est un travail, moi je considère ça comme un travail. Donc en fait, le truc c'est qu'on travaille tout le temps. Comme on repère plusieurs fourgons, on peut préparer plusieurs cases à l'avance. Donc vous avez toujours un case d'avance quelque part. Vous devez situer déjà une bonne planque sécurisée, avec un complice évidemment qui peut, par exemple un fermier, qui vous loue sa grange. Moi j'avais une technique, je faisais une planque dans la planque. C'est-à-dire dans la grange, je faisais un mur de paille, et à l'intérieur des ballots de paille, je faisais une pièce. Donc je planquais mes voitures, les armes, tout le matériel. Mon équipe dort à la planque pendant toute la préparation du casse. On ne prend pas de risque de se faire filer. Comment je fais? Je vais faire une contre-filature. Donc les gars vont venir par leurs propres moyens à un endroit de rendez-vous et je vais vérifier qu'ils ne sont pas suivis. Et après, je vais les récupérer avec une voiture volée ou une moto volée. Et je vais les rapatrier dans la planque. Moi, je pense que l'idéal, c'est de 3 ou 4. Il y a un spécialiste qui va conduire le camion, qui fait la circulation, qui a une arme évidemment, et il faut un spécialiste en explosif, forcément. Et deux autres qui vont superviser l'action du mineur. Alors souvent je suis chauffeur ou plastiqueur. Je suis plutôt chef d'équipe, quoi. Donc celui qui organise et qui définit le rôle de chacun. Évidemment, c'est pas une autorité militaire, hein. C'est tiens voilà, j'ai repéré tel fourgon à tel endroit, et puis chacun donne son avis. Il y a mille façons de braquer un fourgon. On peut mettre un câble, on peut miner la route, on peut faire plein de choses. Et après, on va peser le pour et le contre et se dire, bah tiens, c'est cette technique-là est la plus adaptée. Le but, c'est d'obtenir un résultat, et celui qui a l'idée la plus valable va l'emporter, évidemment. Quand on est tous réunis, on est quatre, chacun va travailler à un poste bien défini. Il y en a un qui va préparer les clous, l'autre qui va mettre les. Il va essuyer toutes les balles, qui va essuyer les armes, qui va enlever toutes les possibilités d'ADN, etc. Donc il y a des tas de techniques mais qui évoluent en plus. Hein. Il faut savoir que à l'époque c'était surtout des empreintes. Ça a commencé en 95 l'ADN. On faisait quand même déjà attention à la salive. Parce qu'on entendait déjà qu'il y avait des tests. Donc on apprend à scotcher la salopette avec les gants, avec une double face, pour empêcher qu'il y ait de l'air et des poils et un morceau de peau qui puisse tomber. On met une double paire de gants. Et c'est un peu comme une opération chirurgicale. Et on faisait une chambre de décontamination. C'est-à-dire que les armes, tous les gilets pare-balles, tout ce qu'on utilisait, était dans une tente au milieu de la planque. On passait tout ce qu'on touchait avec de l'ammoniaque diluée à l'eau. Parce qu'en fait, ça tue les identifiants ADN. On fait très très attention. Tout la moindre parcelle d'ADN peut nous faire tomber. Il y a un gros travail aussi, il faut faire des doublettes de plaques. La voiture avec laquelle on va circuler va avoir la même plaque qu'un véhicule, la même couleur, de la même origine, etc. Ça permet, si la police vous fait un contrôle sur la route, inopiné, bah, en tapant le numéro de plaque, ça passera plus facilement, vous évitez un contrôle. Quoi, voilà. Donc on va aller pousser ce vis-là pour avoir un véhicule qui soit conforme. Il y en a souvent un qui est plus manuel que d'autres, qui va s'occuper de blinder les portières, désosser les panneaux de porte et mettre des rivets, donc avec des plaques de métal, pour éviter si jamais on se fait tirer dessus d'être blessé. Donc une fois qu'on a tout ça, prêt à taper. C'est tellement impactant émotionnellement. La scène est tellement jouée dans sa tête mentalement que dès que ça qu'on dit action, tout est au ralenti. C'est-à-dire que mon rythme cardiaque diminue, je positionne chaque personne et je vois chaque détail. Les sons sont ralentis. En fait, c'est une concentration optimale. Tous vos sens sont aux aguets. Vous êtes comme un animal qui chasse. Vous prenez un chat qui va attaquer une souris, c'est un peu pareil, quoi. On sait que le fourgon va passer, en général, il a un créneau d'horaire de 15-20 minutes. On sait qu'il va passer à tel endroit, à tel endroit. On va mettre le pilote du camion face au fourgon et la voiture de fuite va précéder le fourgon et renseigner le chauffeur du camion. Nos intentions, il arrive sur toi, il est là dans 2 minutes, et donc on le précède d'une ou deux voitures et on va faire en sorte qu'on va ralentir la circulation pour que quand le camion va croiser le fourgon, il va pouvoir le percuter à la vitesse adaptée. C'est pas évident, il faut savoir doser le... Comme le camion fait 40 tonnes, si vous allez trop vite, vous allez écraser le fourgon ou l'envoyer dans le décor. Le but, c'est juste de l'endommager, l'empêcher de rouler. Donc il y a une bonne technique de frappe et en général, c'est toujours la même personne qui faisait ça. Puis alors il y a des petites anecdotes. J'avais un ami qui est décédé aujourd'hui sous une attaque de fourgon. Il faisait son petit signe de croix. Chaque fois qu'il tapait un fourgon, il était sicilien. Et Dieu est son âme, mais cet imbécile a loupé le coup parce que le temps qu'il fasse son signe de croix et qu'il baisse sa cagoule, il a tapé le fourgon, mais un peu trop tard, et il a réussi à s'échapper. C'est-à-dire, il a percuté contre un mur, il a rebondi sur la route, il a réussi à partir. Et je me souviens d'avoir engueulé comme du poisson pourri, mais tu crois vraiment que Dieu va t'aider ? Je conduis la voiture en général, je précède le fourgon, j'y go, donc il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre, je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Donc pour leur montrer que avec leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais le tout, c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif pour faire péter le coffre. Donc la technique qu'on a mis au point, c'est un cadre d'explosif qui va éventrer le fourgon de manière chirurgicale et en même temps qui va éventrer le coffre. Donc vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts. Mais il y a eu des cas où il y a eu des convoyeurs qui se retrouvaient derrière la paroi. Donc forcément, ils sont morts. Donc il faut en général les prévenir, leur dire on va mettre une charge. Ils se couchent sur les coudes et ils ouvrent la bouche. Donc ça permet de ne pas avoir de blast, de ne pas avoir un choc au niveau des poumons. Ça explose, vous mettez à l'abri. Il y a des éclats qui vont dans tous les sens, comme une grenade en fait qui explose. Vous avez une fumée noire qui tout de suite monte dans le ciel. Toutes les sirènes et bagnoles se mettent à gueuler, les vitres ont été soufflées, donc vous avez vraiment c'est transformé un univers paisible en une zone de guerre. L'opération va durer 3 minutes maximum. On met un chrono et on écoute les forces de l'ordre sur un scanner. On sait dès que les convoyeurs vont lancer l'alerte, ils vont appeler leur centrale. Et la centrale va appeler la gendarmerie ou la police. Et vous avez des hélicoptères qui vont se mettre en route, le plan EPV qui se met en place. Donc ça va très très vite. Vous couvrez celui qui va rentrer dans les entrailles, les fourgons, pour aller chercher les sacs. Et on fait une chaîne. Les autres vont charger le coffre du véhicule en mettant tout dans un grand big bag, une espèce de grand sac pour mettre du sable. Vous voyez, quand même une capacité de 500 kg, quoi. Et vous chargez un maximum. Et puis je remonte dans le véhicule, je mets le gyrophare et on a une plaque police lumineuse sur le pare-soleil, donc les gens pensent vraiment qu'ils vont faire des flics, quoi. Et ça vous permet de dégager très très vite et de gagner du temps. Si jamais manque de bol et il y a une patrouille qui passe à ce moment-là, alors soit il y a deux solutions, on évite le coup de feu, mais s'il faut vraiment on s'arrête et on tire. Donc le but c'est de ne jamais commencer une poursuite, il vaut mieux s'arrêter. Sortir et allumer, quoi. En général, ils reculent et ils sont... Puisqu'ils ont des armes de guerre et eux sont équipés avec des armes qui sont moins efficaces, quoi. Alors, pour pallier aussi le problème, ça c'est des choses que j'apprends, on fait des clous à trois plantes qui vont tomber sur la route dans tous les sens, ils vont se mettre toujours avec une pointe vers le haut. Les poursuivants, donc les forces de l'ordre, se prennent les clous et ne peuvent pas suivre. Et vous prenez un chemin de fuite qui est déjà programmé, qui est chronométré. Et on peut, en faisant un changement de voiture, ce qu'on appelle un relais, rapidement changer de véhicule, lui mettre le feu dedans, avec un retardateur de feu, pour que les forces de l'ordre ne retrouvent pas tout de suite le véhicule incendié. Et on reprenait un véhicule qui est souvent un 4x4 ou un véhicule plus discret. Et ça permettait de partir, souvent même revenir vers le lieu du casse. Donc les flics pensent jamais qu'on peut revenir vers le Lucas. Et mon idée, c'était revenir dans l'épicentre et de trouver une planque à moins de 5 km. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est faire attention aux bip traceurs dans les fourgons. Vous avez des détecteurs GPS qui peuvent être mis dans les pochettes. Donc ce qu'on fait, on fait des coffres tapissés avec du plomb, une espèce de caveau avec un couvercle. Donc on laisse un mec dans le trou et lui il va avec une lampe ouvrir chaque pochette, trier le, mettre le fric dans des sacs, regarder s'il n'y a pas une puce qui est cachée dans les liasses ou dans une pochette. Et une fois que tous ces points ont été remplis, que l'argent est en sécurité, si ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de coup de feu, alors là il y a un soulagement et il y a une jouissance. La jouissance arrive à ce moment-là. C'est une jouissance proche de l'orgasme. J'ai une endorphine tellement forte qu'il faut que j'aille courir. Avoir un acte sexuel, ça permet aussi de libérer les tensions et de vite de penser à autre chose. Mais du début de l'opération jusqu'à la fin de l'opération, pour moi, c'est un maximum de stress et il n'y a aucun plaisir. Même en le parlant, là, je le revis. C'est très marrant, puisque je le ressens, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est un état d'esprit en fait. Je pense que c'est très similaire à un mec qui est sur le front de la guerre, quoi.
Et maintenant,
archives. Et maintenant,
la lumière du frigo,
c'est les archives. Et maintenant, c'est les archives.
Et c'est la lumière du frigo, c'est les archives.
Archives.
La lumière du frigo continue avec les archives.
Le moment d'ouvrir la porte du frigo.
La porte du frigo. De rafraîchir l'atmosphère.
Et d'écouter des extraits d'émissions.
Mars 2011, janvier 2014,
septembre 2010,
avril
2017,
mars 2011,
janvier 2014,
juin 2017.
Technique, c'est normal, c'est la 600e. Comme quoi, j'ai bien fait de rien préparer de spécial. Des archives de novembre 2013, on va commencer avec Moslang. Ensuite, il y aura un reportage d'Arte Radio, la série Les Photographes. Et puis, les Tugs, Stéphane Vitellio, Clark Geschleicht. Ensuite, le lièvre de Vatanen, des extraits du bouquin d'Arto Pasilina. Arte Radio encore, Tonotopies, ça c'est HAK et ça nous emmènera probablement jusqu'à John Oswald. Voilà, c'est parti, tout de suite les archives, la lumière du frigo, édition 600.
Là, t'étais pas en situation de le faire, etc. Là, t'as pas été assez rapide. Et puis petit à petit, la confiance arrivant, il y a d'autres types de photos pas prises qui sont arrivées. Et je notais toutes les photos que j'avais pas prises. Je n'ai pas le temps d'avoir 20. Je fais essentiellement de la photo de rue. Je rentre très souvent vers minuit et demi sur le boulevard de Ménilmontant. Je sors de la station de métro et puis je rentre chez moi. Et il y a un bar sur le boulevard. C'est un bar qui est éclairé par des néons derrière. Et il y avait le patron et 4 ou 5 clients. Tous les 4 dans une position d'ennui cinématographique profonde. C'était vraiment très très beau dans cette espèce de torpeur derrière ces néons. Et ils regardaient tous les quatre la rue. C'était vraiment très très beau. Je me suis arrêté devant cette scène et je me suis dit, oh, j'aimerais tellement, tellement pouvoir prendre cette photo. Ces gens-là, je les connais, mais je les connais à peine. Je sais à peine qui ils sont. Si je me plante en face de la vitrine et que je prends une photo, ça va mal se passer. Et moi, je passe ici tous les jours. Et là, dans cette situation, je me suis dit, ok, ces mecs-là, tu vas leur parler jusqu'à ce que la prochaine fois que tu vois cette image, tu te mets en face d'eux, tu fais la photo et il n'y aura aucun problème parce qu'ils savent qui t'es et qu'ils savent pourquoi tu l'as fait. Et ça, voilà, pour moi, elle est importante, celle-ci, beaucoup plus que beaucoup d'autres qui auraient été tout aussi belles mais qui sont juste des regrets, qui n'ont pas entraîné de décision.
Arte Radio.
Je pense qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns que je connais un peu mieux.
Il a pris des éléments, il en a pris d'autres. Jusqu'à priori, l'incendie a eu lieu, mais l'hôtel n'existait pas.
Hi. I'm Marion.
Yeah.
Nice to meet you.
J'ai vraiment mal dormi cette nuit dans l'hôtel. Il doit bien y avoir une église à Saint-Pierre. J'ai trop pris l'habitude de dormir dehors. Peut-être que les murs de l'église y sont moins cruels.
Je n'avais jamais lu de roman d'Arthur. Ça a été une nouvelle rencontre. J'ai surtout aimé la manière dont la nature est décrite dans le livre et les émotions. Même si, bon, d'une manière générale, j'ai trouvé que le roman était très brut. Est-ce que moi je pourrais faire la même chose? Peut-être. Mais pour un tel changement de vie, il me faudrait des bonnes raisons. Quand même. Mais je crois que cette sorte d'aventure est dans le sang. Peut-être que c'est en nous les Finlandais. On parle pas, du coup, tout reste à l'intérieur. Ça grossit jusqu'à cette sorte de choc. Tout quitter, c'est un peu la dernière façon, la dernière chance qu'on a de pouvoir échapper à tout ça.
Avant la première neige, j'ai pris le car pour Posio, dans le sud de la Laponie. J'ai pris un travail de défrichement qui a pu donner une route à traverser le fond du désert de Simula. Le travail est bien payé et l'essentiel est que le lièvre n'est pas à vivre dans des lieux habités. Parfois, je pense à ma vie. Comme elle a changé depuis le printemps dernier, à Vrain-Saint-Jean. Changé du tout au tout.
Le livre de Vatanen est le dernier livre que j'ai lu.
Vatanen
vient de Rovaniemeltä, en Bulgarie. Vatanen trouve ici un travail dans la nature sauvage.
Retour au direct. Retour au direct.
La lumière du frigo.
Retour au direct.
C'est la fin des archives.
C'est la fin des archives.
La lumière du frigo, édition 589.
Et ce soir, c'est l'édition 600. Il reste pas beaucoup de temps, 21h47 à la pendule de Radio Canu. Il nous reste un petit bout à faire avec Jean Gab. Cool d'être venu ce soir. On poursuit avec un long morceau de Nissan and Mondai, le trio des japonaises. Guitare, basse, batterie, musique métronomique, rythmique, martelante, répétitive. Et ça nous va plutôt bien. La lumière du frigo, édition 600. 21h passée de 59 minutes et 40 secondes à la pendule de Radio Canu. Pas de boulimix pour l'instant, donc on verra bien. On va pas changer les habitudes des annonces. Après Samayam, on avait écouté donc un extrait de l'album de Julia Kent qui s'appelle Asperities. Et puis c'était couplé avec plusieurs choses, les Braqueurs, série d'Arte Radio, l'histoire de François, c'est en trois épisodes, je vous recommande d'écouter ça. Et puis également donc extrait cette compilation de musique turque expérimentale. On a écouté 3-4 artistes enchaînés, donc le premier s'appelait Ser Sinan Kesteli, ensuite Kore Taygugli, Mehmet Kanuzur et Tolga Tuzun. C'est très varié, c'est vraiment très bien. Ça n'a de turc que le nom et que les gens. Et c'est un coffret donc de 2 CD sorti sur Sub Rosa. Et puis ensuite, des archives du frigo de novembre 2013, le photographe Moslang Stéphane Vitellio, Clark Schley, quelque chose comme ça, les Tonotopies d'Ashaka, et puis les Tugs, retour au début des années 90. Encore un vieux truc pour cette émission. Et puis on a terminé l'émission avec un long morceau de Nissan Amanda, extrait d'un double album qui s'appelle N.A. Et on a écouté un titre qui s'appelle A. Voilà. On se quitte là-dessus. Peut-être un morceau, peut-être les bandes continuent, peut-être Boulimix. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.